France Culture.
Talmudique. Jacques Hochmann, bonjour.
Bonjour.
Jacques Hochmann, c'est un grand plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation autour de la psychiatrie narrative. Vous citez Shakespeare et vous dites « Nous sommes de l'étoffe dont sont faits nos rêves ». Une phrase qui vous permet de comparer les deux modèles épistémologiques que vous opposez dans votre livre, une psychiatrie purement scientifique et une psychiatrie narrative. L'étoffe est la même, mais non le rapport que l'on entretient avec. Cette référence à Shakespeare est essentielle car elle souligne l'importance de la littérature dans la psychiatrie pour vous, l'importance de la littérature dans le soin et le rapport au malade. Et je me demandais qu'apporte la littérature de si essentielle, Jacques Hochmann.
Je crois que la littérature permet en quelque sorte de prendre une certaine distance par rapport à un réel qui fait en quelque sorte effraction dans notre existence. Au fond, nous faisons tout le temps de la littérature. Je veux dire, le romancier est celui qui l'a fait le mieux. Est-ce que quand nous nous confrontons au réel, nous sommes pas en quelque sorte privés d'une espèce de possibilité de prendre distance par rapport au monde? Nous sommes pris dans une adhésivité, en quelque sorte, avec le monde. Et la littérature, c'est ce qui nous permet de voir le monde un petit peu autrement, de tourner en quelque sorte, comme si on tournait autour de l'objet qu'on voit, qu'on essayait petit à petit de voir plusieurs points de vue possibles, plusieurs images possibles, de se distancer. Ça, je crois que cette façon de se distancer un tout petit peu d'un réel qui fait effraction dans notre existence, cette façon de voir le monde un tout petit peu plus loin, un petit peu par-dessus, en quelque sorte, c'est ce que la littérature nous donne, il me semble.
Jacques Hochmann, vous commencez votre livre par une exergue d'un rabbi chassidique du XVIIIe siècle, cité par Buber, et vous terminez par la célèbre histoire contée par Agnon et rapportée par Gershom Scholem à la fin des grands courants de la mystique juive. Voici l'histoire. Lorsque le Baal Shem Tov, fondateur du chassidisme, voyait qu'un malheur s'annonçait, il avait pour habitude d'aller se recueillir à un certain endroit dans la forêt. Là, il allumait un feu, récitait une certaine prière, et le miracle s'accomplissait, révoquant le malheur. Plus tard, lorsque son disciple, le célèbre Maguide de Meseritch, devait intervenir auprès du ciel pour les mêmes raisons, il se rendait au même endroit dans la forêt et disait « Maître de l'univers, prête l'oreille. Je ne sais pas comment allumer le feu, mais je suis encore capable de réciter la prière. » Et le miracle s'accomplissait. Plus tard, le rabbi Moshe Lev de Sassov, pour sauver son peuple, allait lui aussi dans la forêt et disait « Je ne sais pas comment allumer le feu, mais je peux situer l'endroit et cela devrait suffire. » Et cela suffisait. Là encore, le miracle s'accomplissait. Puis ce fut le tour de Rabbi Israël de Rigine d'écarter la menace. Assis dans son fauteuil, il prenait sa tête entre les mains et parlait à Dieu. « Je suis incapable d'allumer le feu. Je ne connais pas la prière. Je ne peux même pas retrouver l'endroit dans la forêt. Tout ce que je sais faire, c'est raconter l'histoire. Cela suffirait-il ? Et cela suffisait. » Jacques Hochmann, pourquoi avoir choisi de faire du chassidisme l'écrin de votre livre, si l'on peut dire ? Cela me rappelait la lettre de Kafka à Max Brod de septembre 1917, dans laquelle il écrit « Je ne comprends pas pourquoi ces histoires sont les seules choses juives dans lesquelles je me retrouve tout de suite et me sente aussitôt chez moi, indépendamment de mon état d'esprit. » Je me suis demandé, Jacques Hochmann, est-ce que pour vous aussi, comme chez Kafka, les histoires chassidiques avaient cette vertu ?
Oui, je ne veux pas me comparer à Kafka, mais je ne connaissais pas cette lettre et je m'y reconnais tout à fait. Parce que d'abord, j'aime beaucoup les récits chassidiques de Martin Buber que j'ai lus de très nombreuses fois. Mais là, je suis un petit peu obligé de parler de mon rapport personnel à la judaïté. Si vous voulez, moi, je n'ai pas été élevé de façon religieuse, talmudique. Mon père, qui était un juif originaire de Pologne, il savait l'hébreu. et il avait une bonne éducation par un père qui lui-même était laïque et un grand-père qui, par contre, avait un petit heder en Galicie et est allé terminer ses jours à Jérusalem. Il a vécu les dernières années de sa vie, comme beaucoup de juifs pieux de Pologne à l'époque, à Jérusalem. Donc il y avait dans la famille une tradition, si vous voulez, que mon père m'a transmise. Il m'a raconté beaucoup de choses, mais il n'était pas du tout religieux, lui. Par contre, j'ai eu une petite teinte de religion lorsque mon grand-père, qui avait eu la chance de survivre à l'holocauste horrible des Juifs de Pologne, parce qu'il s'était enfui en Russie tout à fait au début de la guerre, et qui est venu finir ses jours chez moi. Moi, mon grand-père était religieux, il m'a fait faire ma bar mitzvah, il m'a un petit peu enseigné des choses de la religion. Il aimait énormément raconter l'histoire de la famille. On a passé de très très long moment ensemble devant des boîtes de vieilles photos, et là il me racontait toutes ces histoires de chaque membre de la famille. Et parmi les membres de la famille, certains étaient très religieux, et quand il parlait d'eux, je pense que c'est la grande différence avec le christianisme, quand il parlait d'eux, il disait pas d'eux, bon, c'était un saint homme, il était très bon, très charitable, des choses comme ça. Il disait, en polonais, je le dis, on dużo umiał, c'est-à-dire, il savait beaucoup. Il savait beaucoup, et ce qui lui paraissait important, c'était la connaissance de l'histoire et évidemment de la religion. Et bon, ça c'est donc peut-être une des explications de cet écrin dont vous parlez, enfin cette espèce de lien à la religion comme une histoire. Moi, ce qui me paraît important peut-être que je me trompe, je sais pas, vous me corrigerez, mais ce qui me paraît fondamental il me semble d'ailleurs que vous avez fait des travaux là-dessus, dans la religion juive, c'est le rapport entre la loi et le récit. Et qu'au fond, si je transpose ça dans mon activité psychiatrique, il y a quelque chose de l'ordre, dans ce que j'appelle la psychiatrie narrative, de l'illustration de ce rapport entre quelque chose qui est la structure, qui est notre identité, qui est quelque chose de construit, de légal en quelque sorte, et puis l'arrivée de l'événement qui, en lui-même, a quelque chose d'illégal, a quelque chose d'anormal, a quelque chose qui dérange la structure, et la façon de le discipliner, cet événement, et de le faire rentrer dans notre identité, c'est justement le récit. C'est de le mettre en récit, c'est de le raconter.
On a parlé dans la première émission du fait que le récit était ouverture vers le futur.
Oui. C'est une ouverture vers le futur, mais c'est aussi une façon de revoir sans arrêt son passé et de se le raconter en le changeant continuellement. On sait bien que la mémoire nous ramène nos souvenirs continuellement d'efforts retransformés, revécus, et par conséquent, de ne pas rester figé sur une espèce d'image un petit peu enchaînante de nous.
Oui, mortifère.
Mortifère, voilà.
Et peut-être que l'exemple le plus extraordinaire de ce rapport de la littérature avec la mémoire, c'est le texte de Proust. Et Ricoeur cite beaucoup Proust, mais Ricoeur parle pour l'identité narrative que vous avez évoquée la semaine dernière. Son livre s'appelle « Temps et récit ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la littérature qui est fondamentalement lié au temps existentiel, au temps de l'individu, et qui permet justement peut-être, d'un point de vue qui nous occupe ici, de la psychiatrie narrative, de ne pas laisser le patient enfermé dans des schémas du passé, mais de lui ouvrir des portes qui lui permettent de changer. Est-ce que c'est cela que vous pratiquez?
Exactement. Si vous voulez, encore une fois, je me suis beaucoup occupé d'enfants, et particulièrement d'enfants autistes. Et ce qui m'avait frappé chez les enfants autistes, ce qui est très connu, c'est cette façon de vouloir rester dans un monde immuable, où rien ne change, où rien ne bouge, et où tout doit venir être toujours à la même place et au même moment. Et le récit, c'est justement le récit qu'on essaye de construire avec eux, c'est justement ce qui va essayer de remettre un tout petit peu de souplesse dans cet univers extrêmement rigide. Là encore, je peux donner, si vous voulez, un exemple clinique.
Oui.
C'est un petit garçon que j'appellerais Robert, si vous voulez, qui était très très autiste, par ailleurs assez développé sur le plan intellectuel. Et ce petit garçon allait tous les jours à l'école, mais il s'était arrangé pour y aller toujours exactement à la même heure. Or, il se trouve à Lyon, d'ailleurs j'ai découvert ça avec lui, ça doit être la même chose à Paris, qu'à chaque heure fixe, c'est toujours le même métro avec la même motrice qui a son numéro qui est posé en tête, qui passe. Donc il allait, mettons, tous les matins à exactement 8h04 pour monter dans le métro qui était dirigé par la motrice numéro 45, par exemple. Et puis un matin, il arrive exactement à la même heure et il se trouve que c'est pas la motrice numéro 45 qui passe, mais que la motrice c'est la numéro 54. Alors ça l'a mis dans un état absolument épouvantable. Il a pris une crise là sur le quai. Il a fallu que des gens le maîtrisent. On l'a ramené chez lui. Enfin, ça a été un moment extrêmement difficile et très très douloureux pour lui. Et alors, ce petit garçon était suivi par une thérapeute. Et la maman donc a raconté tout ce que vient de vous raconter à la thérapeute. Et la thérapeute a essayé de reprendre cette histoire avec lui. Elle lui a re-raconté ce qui s'était produit sur le quai de la gare. Elle lui a dit, comme ta maman me l'a dit, ça n'a vraiment pas été. Et ce matin, c'est affreux ce qui s'est passé pour toi à la gare. Et elle a essayé d'imaginer les affects qu'il avait pu éprouver, tout ça. Et il a écouté ça avec beaucoup d'attention, et c'est devenu une espèce de rituel entre eux. Quand il venait à sa séance de thérapie, il fallait absolument que la thérapeute s'exécute et lui raconte cette histoire. Et alors, petit à petit, mais très doucement, elle a introduit dans cette histoire des toutes petites modifications. Au début, ça l'a beaucoup troublé qu'elle mette ces petites modifications. Il voulait absolument que ça se raconte exactement la même histoire. Et puis ensuite, il a trouvé un certain plaisir à ce qu'elle mette ses petites modifications. Elle lui faisait remarquer, d'ailleurs, qu'elle mettait ses modifications. Et alors là, un nouveau jeu s'est établi entre eux. Ça s'appelait « On change ».
Oui.
C'est-à-dire qu'on devait raconter l'histoire, mais pas exactement de la même manière. Et lui, il la reprenait, mais pas exactement de la même manière. Et chaque fois, on changeait un tout petit peu. Et ben, ça, vous voyez, c'est déjà de la littérature.
Oui.
C'est déjà une façon d'écrire sur une histoire, un petit roman.
Alors, ce qui est extraordinaire dans l'exemple que vous venez de donner, c'est que on voit comment, dans ces changements d'intrigue ou de narration, ou simplement de quelques mots, ce jeune garçon, qui est justement enfermé dans des modèles qu'il veut ne pas changer ou inchangeables, va s'ouvrir vers la possibilité du changement, et ça a été peut-être un début de sa thérapie.
Oui, c'était ça. Et puis ensuite, lui-même, il venait voir sa thérapeute. Bon, le diagnostic avait été fait. C'est que maintenant, les gens tiennent beaucoup à avoir un diagnostic. Donc, il savait qu'il était autiste. Et il disait, je viens ici parce que je veux plus être autiste. Et il s'est mis lui-même à inventer des petites histoires. Toute une espèce d'activité, j'allais dire presque poétique, s'est mise en route dans cette thérapie très particulière.
Alors, ça rejoint peut-être un peu un roman de Murakami que vous aimez citer, qui est aussi un roman dans lequel les protagonistes sont un écrivain et un jeune autiste. Et là aussi, on a une rencontre et une importance de la littérature. C'est-à-dire, en fait, c'est la littérature dans la littérature pour montrer à quel point la littérature est essentielle pour cette ouverture du cerveau et de l'esprit. Alors, vous signalez que même pour les neurosciences, parce que c'est important de bien préciser que votre pratique de psychiatre narratif, si on peut dire, n'est pas une opposition aux neurosciences, c'est un complément. Même pour les neurosciences, le cerveau est un organe littéraire. C'est votre expression. Je pense à la citation d'Éric Kandel que vous rapportez, et qui était un prix Nobel, et qui mérite un commentaire. Il dit « C'est avec le récit que le cerveau, qui n'est pas une caméra, mais un conteur homérique d'histoire, constitue la conscience, Jacques Hockmann. »
Oui, c'est ça. Eh bien, Éric Kandel a beaucoup insisté là-dessus. Il y a d'autres neuroscientifiques, comme Lionel Nakache, par exemple, en France, qui parlent de cinéma intérieur. Lui, il emploie plus des métaphores du côté du cinéma que de la littérature. Mais c'est un peu la même chose pour essayer d'expliquer que ce que nous appelons la conscience, c'est pas un décalque rigide du réel, c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit par toutes sortes d'interconnexions cérébrales, et je trouve que de ce point de vue, il y a des rapports assez étroits entre ce développement des neurosciences et cette optique narrative que je défends. Simplement, je crois que on n'est pas tout à fait au même niveau. J'essaie pas du tout, moi, de me positionner comme une espèce de défenseur d'une psychiatrie qui serait purement psychologique, en quelque sorte, et qui nierait ces progrès neuroscientifiques. Je plaide pour ce que j'ai appelé, moi, le dualisme méthodologique, c'est-à-dire pour que on ne confonde pas les deux démarches, mais les deux démarches sont nettement complémentaires.
Oui. Alors, ce qui est important dans ce qu'on comprend de cette démarche narrative, je crois que le mot qui est souvent revenu dans notre conversation, c'est l'ouverture, la fécondité, on l'a pas utilisé, mais on comprend, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui est fécond vers le futur. Et dans ce cadre-là, vous notez que le mot narratif, devenu insubstantif, est sur toutes les bouches en inflation verbale, qui dénature le sens même de la dimension narrative. Chacun a son narratif, c'est-à-dire en d'autres termes, une histoire auquel il tient, comme un fétiche, et qui est le cœur même des idéologies. C'est-à-dire que, au lieu que l'histoire ouvre, les gens s'enferment dans leur histoire. Comment la psychiatrie narrative pourrait-elle soigner l'engouement dévoyé pour les narratifs en tout genre, et particulièrement dans le domaine politique? Comment aider à sortir de l'enfermement dans les idéologies, Jacques Hockmann?
Moi, ce qui me frappe effectivement, c'est cette espèce d'inflation actuelle qu'on a repris aux Américains du terme narratif. Chacun a son narratif, un homme politique a son narratif, un manager a son narratif. Moi, la conception que j'ai de l'activité narrative, c'est quelque chose de liquide. C'est quelque chose qui s'écoule peut-être vers un futur, effectivement, qui est créatif. Et puis tout d'un coup, on introduit ce narratif un peu comme si c'était un glaçon au milieu, quelque chose qui fige l'écoulement narratif. Alors, est-ce que la psychiatrie a puissance pour changer quelque chose là-dedans? Ça, je ne saurais pas vous dire.
Si c'est un glaçon, peut-être trouver la manière de réchauffer les glaçons pour les retransformer en eau.
Oui.
D'où la question, qu'est-ce que serait ce feu? Mais peut-être le feu en question, c'est le feu de l'histoire, le feu de la littérature.
Exactement.
Et j'aime bien cette idée de la Torah qui dit, c'est un midrash, qui dit que la Torah est feu noir sur feu blanc. Alors, c'est beaucoup analysé sur la question des couleurs, mais on peut tout simplement aussi dire que cette question du feu qui réchauffe peut faire fondre les idées qui deviennent glacées et glaçantes pour leur redonner une dimension héraclitéenne de quelque chose qui va couler. Vous dites que il y a une dimension malgré tout politique par rapport à la question de la psychiatrie. Vous notez dans l'une des lettres imaginaires qui constitue un chapitre de votre livre qu'il existe un lien étroit entre l'histoire politique et la psychiatrie. Les moments féconds de la psychiatrie ont toujours correspondu à des progrès démocratiques faisant respecter le droit des personnes, et vous tracez à grands traits l'évolution de la psychiatrie jusqu'à nos jours, et c'est absolument passionnant. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, mais de manière brève, parce que nous avons encore d'autres questions.
La psychiatrie a effectivement un rapport très étroit avec l'évolution politique. D'abord, elle apparaît au moment de la Révolution française. Les premiers psychiatres authentiques, enfin ceux qui donnent une espèce d'humanité au fou qu'on considérait jusque-là un petit peu soit comme un possédé du démon, soit comme un animal, c'est contemporain de la Révolution. Ensuite, sous la Restauration, au contraire, on voit apparaître une psychiatrie qui ressemble beaucoup à ce que je critique dans la psychiatrie actuelle, c'est-à-dire une psychiatrie d'organes où on veut trouver le secret en coupant le cerveau en tranches et on accuse les psychiatres précédents d'avoir raconté de belles histoires, d'avoir fait des sortes de nouvelles littéraires, mais d'avoir complètement manqué ce qui était l'objet de la psychiatrie. Et puis, cette période néfaste, en quelque sorte, va commencer un tout petit peu à bouger. Ça va durer très longtemps, ça. puis ça va bouger un tout petit peu au moment des années folles, avec l'apparition du surréalisme, avec l'apparition de la psychanalyse aussi. Et c'est vraiment dans l'après-guerre, au moment de la libération, au moment des idées du Conseil national de la résistance, qu'on voit se développer une psychiatrie qui est subjectivante, qui revoit des sujets et non plus des espèces de machines à discipliner et à réprimer. Aujourd'hui, peut-être que certains reculs de la psychiatrie que je critique dans ce livre est lié au fait que tout ce qui est l'espoir démocratique est un petit peu en péril de nos jours.
Du sextuor pour flûte, hautbois, clarinette, cors, basson et piano de Francis Poulenc par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. C'est un choix original, Jacques Hochmann. Quelle histoire raconte cette musique pour vous? Pourquoi l'avoir choisie?
Alors, c'est encore une fois très personnel. Ce livre que j'ai écrit est dédié à Annette André, qui a été ma collaboratrice, qui était psychologue et psychothérapeute auprès des enfants avec lesquels dont je me suis occupé, qui a été ma collaboratrice et mon inspiratrice pendant une grande partie de ma vie professionnelle et qui est devenue malheureusement très brièvement ma deuxième épouse, mais qui m'a été enlevée par la maladie quelques semaines après notre mariage. Le morceau qu'on vient d'entendre, par contre, je l'ai entendu une fois dans un concert avec ma première épouse, Colette, avec qui je suis resté marié 60 ans, qui est aussi décédée. Et lorsque nous l'avions entendu, nous avions eu tous les deux la même association après. Nous nous étions dit l'un à l'autre, c'est un morceau magnifique qu'on aimerait bien qu'il soit joué à nos obsèques. Comme je suis très vieux et que ce livre a une fonction testamentaire un peu, j'ai pensé que c'était aussi une façon de rendre hommage à Colette, à ma première femme. Et voilà, c'est un peu ça qui m'a conduit à le choisir.
Oui, vous dites que vous êtes très vieux, mais vous êtes très jeune. Vous êtes né en 1934, comme on dit en hébreu, jusqu'à 120 ans. Donc en fait, vous êtes très très jeune, ou comme dit Dante, je suis au milieu du chemin de la vie, c'est-à-dire quel que soit l'âge que l'on a, on est toujours au milieu de son chemin, donc plus on avance en âge, plus on rajeunit. Et en écoutant ce passage du sextuor de Poulenc, je pensais aux notes de musique, en général, qui parfois sont attendues, mais ne viennent pas, et aux notes de musique qui arrivent quand on ne l'espère plus. Et je me disais que la musique se conjugue à l'inattendu, comme l'intrigue des histoires. Vous écrivez dans le chapitre intitulé « La causalité narrative », qu'il y a dans toute forme narrative une fonction intégrative de l'imprévu, cet événement qui dérange et en même temps qui fait avancer l'action. Parlez-nous de l'imprévu, ce grand personnage des histoires, Jacques Hochmann.
L'imprévu, c'est ce qui vient tout d'un coup remettre en cause la cohérence de notre identité narrative et qu'il faut en quelque sorte discipliner. Et le but du récit, la façon de le raconter à nous-mêmes, de le raconter à quelqu'un, c'est de le discipliner pour l'intégrer, pour l'assimiler, pour le digérer, en quelque sorte, comme quelque chose qui, à la fois, vient de l'extérieur. Dans les deux histoires que j'ai racontées, dans la première histoire, c'est une sorte d'imprévu de l'intérieur, qui est cette espèce de rage qui saisit ce petit garçon quand il voit sa petite sœur sucer son pouce. Dans la deuxième histoire, c'est un imprévu de l'extérieur, c'est le changement de numéro de la motrice du métro.
Ce qui est intéressant, c'est que le chapitre dans lequel vous parlez de cette fonction intégrative de l'imprévu s'appelle la causalité narrative, et ça, c'est un concept important à rajouter pour bien comprendre votre entreprise. Qu'est-ce que la causalité narrative et en quoi elle s'oppose à la causalité physique ?
Alors là, je peux le développer, si vous voulez, à travers un exemple qui est d'ailleurs dans le livre, et qui est un exemple très personnel. Un jour, je me suis cassé la cheville. Bon, ça, c'est un imprévu, mais c'est un imprévu physique. J'imagine que je vais chez mon analyste, que je lui raconte cette histoire. Cette analyse, il se trouve, qui va partir en vacances et moi, j'ai ma jambe qui est cassée, je souffre, j'ai besoin de son aide, j'ai besoin de parler à quelqu'un de cet imprévu qui m'est arrivé. Et là, petit à petit, je sens monter en moi une colère. Du coup, toute mon histoire va être modifiée. Je lui raconte l'histoire que je me suis cassé la jambe, mais ça me fait penser à un autre imprévu. Quand j'étais enfant, c'est vrai ça, dans la cour, le maître a sifflé parce que j'étais un peu turbulent. Je me suis arrêté d'un coup, je suis tombé, je me suis cassé la jambe. Ma mère est venue, s'est occupée de moi. Voilà des événements qui ont réellement existé. Mais tous ces événements, je les ai mis les uns à côté des autres, je les ai racontés à mon analyste. J'ai créé en quelque sorte une nouvelle histoire où chaque événement n'est pas la cause physique de l'autre. Il n'y a pas de transfert d'énergie, il n'y a pas de transfert de matière. Il y a simplement des liens qui s'établissent. Et la causalité narrative, pour moi, c'est ça. C'est ces liens qui s'établissent entre des histoires. Quelque chose qui vous est arrivé évoque quelque chose d'autre. Et ces choses se mettent dans une espèce de cohérence, en quelque sorte, par association d'idées.
Oui, c'est par association d'idées. Vous dites que la causalité narrative implique des choix et des deuils qui font naître une vérité narrative unique, même si elle peut évoluer avec le temps dans le récit répété du patient, comme on l'a un peu vu dans les exemples que vous avez donnés. Vous dites que ce qui permet au patient de choisir cette vérité narrative est le plaisir que cette vérité apporte, car elle compense le deuil des autres possibilités. De quel plaisir s'agit-il, Jacques Hockmann ?
C'est un plaisir très particulier. Freud a surtout insisté, lorsqu'il parle du principe de plaisir, qui est quand même au centre de son élaboration, il a surtout insisté sur un plaisir de décharge, de satisfaction, dont le modèle est l'orgasme, en quelque sorte. Il y a une tension, et puis cette tension s'abolit, et surgit le plaisir. Le plaisir dont je parle, c'est un plaisir dont on a beaucoup parlé, un psychanalyste anglais qui s'appelle Winnicott, est au contraire un plaisir calme, un plaisir tranquille, le plaisir du jeu en particulier. Lui, il insiste beaucoup sur le plaisir du jeu quand l'enfant est en train de jouer très tranquillement. D'ailleurs, quand l'enfant, comme on dit, s'excite, ce plaisir du jeu se transforme, s'abolit et passe au plaisir de décharge. L'enfant s'excite, peut devenir violent, mais quand il retrouve le calme, on retrouve ce plaisir. Ça rejoint un peu ce que des psychanalystes français, Jean et Evelyne Kessenberg, enfin français, l'un était d'origine judéo-polonaise et l'autre d'origine judéo-espagnole vivant en Turquie. Ces deux psychanalystes ont beaucoup insisté sur ce qu'ils appellent le plaisir de fonctionnement, c'est-à-dire sur le fait quand l'enfant gambade gentiment, sans s'exciter, le simple fait de faire marcher son corps un petit peu dans tous les sens, c'est ce plaisir-là, qui est encore aussi un plaisir calme, très proche du plaisir du jeu de Winnicott. Et à partir de là, si vous voulez, moi j'ai essayé d'élaborer l'idée que le fait de mettre en cohérence les pensées que nous avons, de discipliner l'imprévu et de le faire entrer dans un récit intérieur cohérent, comme si notre appareil à penser était un organe au même titre que nos bras, nos jambes. L'appareil psychique était un organe et que cet organe était capable d'éprouver ce plaisir que j'ai appelé auto-érotisme mental, que le simple fait de mettre les choses en cohérence, de construire un récit, était source de plaisir et que, de ce fait, un psychanalyste anglais, Bion, a beaucoup insisté sur ce qu'il appelle le fait choisi. Pour construire un récit, on prend certains faits plutôt que d'autres. Alors, on fait le deuil peut-être de ceux qu'on n'a pas utilisés, mais ceux qu'on a utilisés, ce fait choisi, on le choisit peut-être parce que c'est celui qui est le plus poétique, qui est le plus capable de nous donner un certain plaisir dans l'esthétique du récit. Je crois que c'est très important, l'esthétique du récit. Je crois qu'on aide, par exemple, beaucoup les patients, quand on fait leur dossier, par exemple, d'écrire leur histoire avec un certain style, avec une certaine élégance. Et là-dedans, il y a quelque chose qui nous donne à nous un plaisir de fonctionnement, un plaisir, cet auto-érotisme mental, et que dans la mesure où on éprouve du plaisir, nous, à soigner le patient, on lui transmet peut-être aussi quelque chose, notre plaisir, et du coup, il trouve lui aussi du plaisir à élaborer ses pensées et à, de ce fait, à aller mieux, à aller vers un fonctionnement heureux de la pensée.
Merci Jacques Hochmann pour cette deuxième semaine de très belles conversations. J'invite les auditeurs à prolonger ces conversations en lisant votre livre « Introduction à une psychiatrie narrative » sous-titré « De l'événement au récit ». C'est aux éditions Odile Jacob et c'est véritablement très très passionnant. Merci encore Jacques Hochmann.
Merci à vous encore une fois, j'ai eu un très grand plaisir à discuter avec vous.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Chantal Nouvelot et Paul Guigues, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.